C'est la suite de La Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes avec Thierry Gilibeuf qui vient de retraduire avec Christian Garcin les nouvelles d'Edgar Poe écrites entre ses 20 et 30 ans avant la parution du reste de ses nouvelles dans quelques temps. Tout cela, ce sera Essai chez Phébus et on trouve dans ce premier volume qui paraît donc le comte William Wilson dont on a déjà parlé mais dont on va parler encore davantage. En voici un extrait dans une lecture d'une archive qui date de 1964.
Je m'étais toujours senti de l'aversion pour mon malheureux nom de famille, si inélégant, et pour mon prénom, si trivial, sinon tout à fait plébéien. Ces syllabes étaient un poison pour mes oreilles. Et, quand le jour même de mon arrivée, un second William Wilson se présenta dans l'école, je lui en voulus de porter ce nom, et je me dégoûtais doublement du nom parce qu'un étranger le portait. Un étranger qui serait cause que je n'entendrais prononcer deux fois plus souvent. Le sentiment d'irritation créé par cet accident devint plus vif à chaque circonstance qui tendait à mettre en lumière toute ressemblance morale ou physique entre mon rival et moi. Il me donnait la réplique avec une parfaite imitation de moi-même, gestes et paroles, et il jouait admirablement mon rôle. Mon costume était chose facile à copier. Ma démarche et mon allure générale, il se les était appropriés sans difficulté. En dépit de son défaut constitutionnel, ma voix elle-même ne lui avait pas échappé. Naturellement, il n'essayait pas les tons élevés, mais la clé était identique, et sa voix, pourvu qu'il parlât pas, devenait le parfait écho de la mienne. À quel point ce curieux portrait, car je ne puis pas l'appeler proprement une caricature, me tourmentait, je n'entreprendrai pas de le dire. Je n'avais qu'une consolation. C'était que l'imitation, à ce qu'il me semblait, n'était remarquée que par moi seul, et que j'avais simplement à endurer les sourires mystérieux et étrangement sarcastiques de mon homonyme.
Une lecture par Jean Mercure. Alors il faut parler un petit peu de cette nouvelle parce que c'est une des nouvelles les plus importantes de Poe. Je crois que c'est même votre préférée, c'est vrai ?
Je pense que c'est une de mes préférées, oui.
Ouais, pour quelle raison ?
Alors, juste, je vais vous répondre, mais vous aviez parlé tout à l'heure des Beatles, dont je suis un grand fan. Faut dire que je suis quelqu'un de moderne, Pac-Man et Beatles. Et donc, Poe figure sur la pochette de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band et de mémoire, il est dans au dernier rang. Voilà, c'était juste là.
C'est important qu'il soit au dernier rang?
Non, je ne sais rien. C'est parce que je crois qu'il est au dernier rang, parce que on le voit, on le reconnaît. Il est assez reconnaissable quand même. Il a une tête assez reconnaissable. William Wilson, parce que je trouve que c'est... Je reviens à votre question maintenant. C'est parce que je pense que c'est une des nouvelles où, les plus maîtrisées de Poe au niveau de l'écriture, au niveau de la progression de l'intensité narrative. Et puis cette thématique du double est quand même fascinante. Hein. Elle est, je dirais même que c'est un peu la base du conte fantastique, mais aussi du conte identitaire, psychologique. Voilà.
Alors on va raconter un petit peu l'histoire. Hein. Ça se passe dans un pensionnat que le narrateur décrit d'ailleurs comme un vieux bâtiment irrégulier dans lequel il est difficile de dire si on est au premier ou au deuxième étage.
Voilà ce genre de détails par lesquels on introduit aussi un mystère. On est presque dans une perspective à la M.C. Escher, c'est-à-dire le regard ne sait plus s'adapter. Et donc, du coup, ça crée un déséquilibre d'emblée, un déséquilibre du décor, du cadre, qui fait que le narrateur et puis le lecteur vont perdre les repères qui lui auraient permis peut-être de rester dans la rationalité.
Quoi. D'ailleurs, il y a un jeu de mots en anglais sur story,
en américain,
l'étage.
Ouais. Qui veut dire aussi histoire.
Voilà. Évidemment, l'histoire aussi. Alors, donc il y a ce jeune homme qui est pensionnaire, qui n'est pas quelqu'un de très sympathique, il faut bien le dire, c'est un buveur, un joueur, c'est même un truqueur qui escroque ses camarades. Quel portrait on peut faire de lui, Thierry Gilibeuf ?
Je pense que là, vous avez...
J'ai tout dit.
Vous avez dit l'essentiel, oui, c'est ça, c'est ce personnage. C'est pas l'escroc sympa en fait, hein. C'est plutôt le filou roublard et puis sans état d'âme quoi, hein. et qui n'a pas du tout envie de tisser des liens de sympathie. Donc c'est une habileté un choix habile de Poe de ne pas nous créer un personnage auquel on va s'attacher. Donc Et ça va rajouter au malaise quand on va apparaître ce double, justement.
Mais c'est quelqu'un à qui on ne s'attache pas, mais qui en même temps est capable de reconnaître qu'il est lui-même un pervers.
Oui.
Et on sait que ça, c'est important, le rapport de Poe à la perversité. Mais c'est encore plus étonnant quand le narrateur est capable de dire qu'il est pervers.
Ah oui, oui, mais alors ça a fait le... Donc ça a fait le lit des exégèses psychologiques de l'œuvre de Poe. Je pense que lui, c'est en ça que cette nouvelle est quand même assez fascinante. Il est dans une parfaite lucidité. Le personnage est dans une parfaite lucidité. Le narrateur est dans une parfaite lucidité. L'auteur est dans une parfaite lucidité. Et donc, ce qui fait qu'il n'y a à aucun moment... l'histoire ne va échapper à Poe. Il va la diriger et la maîtriser complètement. Et justement, par le fait que le personnage central, donc fait cet aveu de sa propre perversion, ça nous permet à nous lecteurs de rentrer encore mieux dans sa psychologie. Et donc, je disais qu'il n'était pas sympathique. Et malgré tout, on s'approche de plus en plus du personnage. Il y a une espèce de d'empathie un peu inquiète qui se crée avec lui. Quoi.
Oui. Alors, arrive un jour un autre élève qui lui ressemble en tout point, sauf qu'il a une difficulté à parler. Il parle un peu comme François Mauriac, on l'entend à peine comme ça. Et c'est la seule chose qui finalement les distingue à peu près. Donc c'est l'irruption du double. Et ensuite, que se passe-t-il, Thierry Gilibeuf?
Je pense que... C'est difficile de raconter la suite sans dévoiler la. Pour moi, c'est un peu difficile de raconter la suite sans dévoiler la chute, quoi. Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est la thématique du. C'est vraiment la thématique du double et du dédoublement, en fait. On souhaite, c'est le, ce qu'on se retrouvera chez Stevenson, chez Conrad, qu'on trouve aussi chez Melville. C'est-à-dire, ça permet à le fait de doubler une personnalité. De créer un, donc vraiment ce personnage du double, ce n'est pas que ça multiplie par deux les possibilités d'histoire, c'est presque, enfin c'est mathématique, c'est presque un exponentiel, c'est un truc au carré, c'est-à-dire qu'on est, les champs possibles sont complètement démultipliés, quoi. Il y a toutes les possibilités qui se tissent entre ces deux personnages et bah oui, c'est difficile de raconter.
Parce on ne va pas raconter la fin. Bah ouais, voilà, mais alors, on peut peut-être dire que ça peut faire penser, par exemple, à Fight Club. Encore un film un peu vintage qu'on peut convoquer.
Oui, voilà. C'est exactement ça.
Ça se passe en Angleterre, ça ne se passe pas aux États-Unis. Y a-t-il une raison pour cela?
Ça peut être parce que Poe a fait un court séjour avec ses parents adoptifs en Angleterre.
Voilà, il ne faut pas aller chercher plus loin.
Bon, a priori, non, je ne vois pas. Ou alors, est-ce que c'est un hommage rendu à la littérature gothique anglaise? Non, je vois pas plus de raisons que ça. Quoi.
Parce qu'on a dit aussi que c'était la nouvelle la plus autobiographique de Poe.
Oui, oui, oui. Ben, je pense que c'est. Oui, je pense qu'il n'a pas été très heureux dans ces. Enfin, je pense que de manière générale, il n'a pas été très heureux. Mais bon, dans ces années-là, il n'a pas été très heureux, quoi.
Donc, vous l'avez traduite évidemment comme les autres. La traduction de Baudelaire qu'on a entendue spécifiquement, est-ce que ce serait un bon exemple, peut-être? Vous pourriez nous dire comment est-ce qu'elle diffère de la vôtre? Alors, vous n'avez peut-être pas les deux textes comme ça en tête, mais de manière un petit peu globale.
Alors. Évidemment, quand on s'est lancé dans le travail de traduction de Poe après Baudelaire, on a pris une cuirasse et une armure.
Tout le monde doit vous dire, mais alors, comment faire pour passer après ce grand poète?
Ça va les chevilles, voilà. Donc c'est, bon.
On vous l'a dit beaucoup?
On a au début, après non. Donc la seule chose, Ezra Pound disait que chaque génération devrait retraduire ses classiques. La traduction de Baudelaire, pour nous, on s'est dit, voilà, Poe, Baudelaire, quand on a lu la biographie de Walter, etc., on s'est dit, bon, mais enfin, Poe, c'est pas exactement l'image qui nous a été transmise par involontairement, hein, presque, hein, par Baudelaire. Et donc, on s'est dit, bon, peut-être qu'aussi sur le texte, il y a quelque chose à changer, il faut peut-être débaudelairiser Poe. Oui. On s'est rendu compte qu'au niveau de la traduction de Baudelaire, elle est, comme je vous l'ai dit, on a relevé quelques contresens.
On peut en citer quelques-uns, hein, d'ailleurs. Oui. Parfois, obstination devient perversion.
Oui, voilà.
Là, c'est presque psychanalytique.
Je pense que là, c'est vraiment psychanalytique même.
Alors, les yeux limpides deviennent des yeux vitreux.
Oui.
Voilà. Dans Parmi les lions, le sixième ciel devient ce plus drôle, le sixième siècle.
Oui.
Il y en a d'autres comme ça qui vous viennent
à l'esprit? Non, à l'esprit, non, mais on a relevé comme ça des petits contresens, mais pas tant que ça. On en a relevé un certain nombre, mais pas tant que ça. Ce qui nous a, il faut retraduire parce qu'on, d'une part, la langue évolue. En 150 ans, elle a évolué. Et d'autre part, le rapport à la traduction a complètement changé depuis l'époque de Baudelaire. Mmh. Et par exemple, Baudelaire est rigoureusement fidèle dans la traduction. Donc en anglais, les répétitions sont un truc qui sont totalement autorisées. Et donc, quand on veut créer, alors, sauf parfois où il faut en effet créer cet aspect un peu litanique l'anaphore, maintenant on appellera ça.
Donc, quel président en particulier? Un ancien président,
depuis pas mal copié, on va dire. Ouais. Et donc, ce processus narratif parfois est utile, mais les Anglais vont mettre huit fois dans une phrase, et Baudelaire va traduire et virgule, huit fois. Sauf que, en français, ça heurte un petit peu quand même l'oreille sensible. Donc voilà, ce genre de choses. Après, la langue de Baudelaire, c'est une langue des années du milieu du 19e siècle. C'est bon, c'est la langue de Baudelaire aussi, et c'est quand même pas rien. Mais c'est pas exactement, c'est pas exact. On peut en trouver que par moment, il l'avait un peu figé dans un cadre. Mais en fait, la débaudelairisation, ce que je vous disais tout à l'heure, nous, c'est dans la représentation de Poe. Et en faisant le choix de publier aux éditions Phébus les volumes, les nouvelles par ordre chronologique, ça permet de casser le moule nouvelle fantastique.
Baudelaire ne les avait pas organisés de cette façon-là.
Non, ils avaient organisé de façon thématique. Et donc, ça permet de voir justement l'œuvre complète de l'homme dans sa progression, dans sa façon de se répondre, dans sa façon de se parodier. Et c'est en ça que et donc justement de faire ressortir un personnage de Poe un peu différent, voire assez différent de celui que l'on avait jusque-là. Quoi.
Votre démarche, vous l'avez résumée dans cette phrase qui consiste à dire que vous voulez parvenir, je cite, à cet état d'objectivité réceptive qui est celui des auteurs des haïkus japonais.
Oui, je ne sais pas ce qu'on avait pris quand on a écrit ça.
un thé vert,
exactement, voilà.
Alors, parmi les nouvelles de ce premier volume, il y a aussi le manuscrit trouvé dans une bouteille, texte qui avait paru en juin 1833 dans le Baltimore Sunday Visitor. Je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait.
Le navire, avec tout ce qu'il contient, est imprégné de l'esprit des anciens âges. Les hommes de l'équipage glissent çà et là comme les ombres des siècles enterrés. Dans leurs yeux vit une pensée ardente et inquiète. Et quand, sur mon chemin, leurs mains tombent dans la lumière effarée des fanaux, j'éprouve quelque chose que je n'ai jamais éprouvé jusqu'à présent. Quoique toute ma vie j'ai eu la folie des antiquités et que je me sois baigné dans l'ombre des colonnes ruinées de Baalbek, de Tadmor et de Persépolis, tant qu'à la fin mon âme elle-même est devenue ruine. Concevoir l'horreur de mes sensations est, je crois, chose absolument impossible. Cependant, la curiosité de pénétrer les mystères de ces effroyables régions surplombe encore mon désespoir et suffit à me réconcilier avec le plus hideux aspect de la mort. Il est évident que nous nous précipitons vers quelque entraînante découverte, quelque incommunicable secret dont la connaissance implique la mort. Peut-être ce courant nous conduit-il au pôle sud lui-même. Il faut avouer que cette supposition, si étrange en apparence, a toute probabilité pour elle.
Extrait donc du manuscrit trouvé dans une bouteille. Vous avez peut-être reconnu l'acteur. Il s'agit de Michel Bouquet et l'archive date de 1962. Alors c'est un conte important quand même dans l'histoire d'Edgar Poe parce que c'est un des premiers. Hein. Évidemment, dans le tome 1 que vous faites paraître, il y a que les 10 premières années. C'est normal, les autres viendront ensuite. Mais il avait reçu un prix de $50 pour cette nouvelle et ça avait attiré l'attention du journaliste John Kennedy, et c'est lui qui allait lancer un petit peu la carrière journalistique d'Edgar Poe. Donc, à plusieurs titres, en fait, c'est un conte qui est important.
Oui, c'est un conte qui est important aussi parce que quand Poe va mourir, il va appeler un Reynolds, un personnage qui était un personnage très très populaire à son époque, qui avait popularisé à travers ses conférences sa théorie de la Terre creuse. Et donc ça, c'est devenu une espèce d'obsession pour Poe, et ça revient plusieurs fois, plus ou moins directement dans ses nouvelles, et donc ça donne lieu à un imaginaire, l'idée qu'on pourrait descendre sous terre.
Là, on retrouve Jules Verne quand
exactement,
même.
Exactement, mais Jules Verne qui était lui-même un très grand admirateur de Poe et qui écrira une suite aux aventures d'Arthur Gordon Pym, un livre qui s'appelle Le Sphinx de glace, donc, et qui écrit un texte, son seul texte et ses critiques à Jules Verne, c'est un essai sur Poe. Donc oui, il y a d'une part le côté matériel, puisque ça, en effet, il va avoir le pied à l'étrier grâce à ce prix, grâce à ce journaliste, ce directeur de journal. Et puis il y a aussi, on est dans une des thématiques, et Poe, c'est un écrivain qui, mis à part son court séjour en Angleterre, qui a très peu duré, de 3 ans dans son enfance, adolescence, quelqu'un qui n'a jamais quitté les États-Unis.
Il a beaucoup voyagé dans les États-Unis.
Oui, sur la partie est, quoi. Voilà, il est parti
entre les États-Unis de l'époque.
Oui, voilà, entre New York et la Virginie, en gros, quoi. Pas New York, c'est plus bas. Entre Boston et Richmond, quoi. Il a fait. D'ailleurs, avec Christian, nous avons fait l'année dernière un pèlerinage, entre autres sur les traces de Poe, mais qui nous a entraîné. Oui, c'est ça.
Ça vous a aidé pour la traduction?
Non, parce qu'on l'avait pratiquement terminé, mais ça nous a. Non, de l'avoir fait. Je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose, mais de l'avoir fait après, en tout cas, ça avait quelque chose d'assez émouvant pour nous d'aller sur ces traces, que ce soit à Providence, que ce soit à Richmond, que ce soit à New York. Voilà, on a cherché des. On est allé manger dans le restaurant où il a écrit la nouvelle, le tonneau d'Armontillado, qui est dans le deuxième tome, etc. Voilà.
Enfin, vous n'avez pas suivi la côte en bateau, vous n'avez pas essuyé les tempêtes.
On est allé visiter son cottage, voilà.
Comme dans le manuscrit trouvé dans une bouteille, parce que c'est ça, hein, c'est l'histoire d'une tempête, avec d'abord deux compagnons qui tiennent le coup, alors que tous les autres marins sont passés par-dessus bord, jusqu'à ce que l'un des deux se retrouve projeté sur un autre bateau, où il va se retrouver là, Thierry Gilibeuf, au milieu de personnages plutôt étranges.
Oui, mais on voit. Enfin, alors là je ne sais plus en mémoire les sources de Poe, mais là, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est capable aussi de partir de son propre imaginaire, c'est-à-dire peut-être un point de départ assez ténu, pour aller basculer vers quelque chose. Là, je pense qu'on est dans les grandes nouvelles fantastiques, là, pour le coup de Poe. On n'est plus du tout dans ce. Je me renie par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est un maître du grotesque, mais c'est aussi quand même.
On a le droit de se renier quand on parle de Poe lui-même, revendiquer cela.
Voilà, et bien, c'est aussi un maître, évidemment, du fantastique, et de ce fantastique un peu inquiétant, un peu. Et moi, là, pour le coup, c'est quelque chose qui m'a frappé, mais plutôt quand on a fini à la fin de notre travail avec Christian, c'est à quel point un autre auteur pour lequel je me passionne est redevable à Poe, c'est Joseph Conrad, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans un univers conradien. Il y a quelques nouvelles comme ça de Conrad qui sont vraiment, on sent, calquées sur celles de Poe, quoi. Donc oui, là, il y a toujours chez Poe une façon d'amener le récit à son point central, à son épicentre. Il l'amène d'une façon parfois détournée. Il va dans une direction, on le suit, puis tout d'un coup, tac, il va décrire un coup de brutal vers la droite, ce qui est un peu le piment narratif, et va surprendre il va dérouter littéralement le lecteur, qui du coup va perdre ses repères et se bascule, même sans forcer le trait, bascule dans un univers complètement où on n'a pour le coup plus aucun repère, où on est nimbé d'emblée de mystère, quoi, et toujours sans forcer le trait. Il n'y a pas de monstre, il y a du surnaturel, mais juste subtilement dosé. Enfin, c'est toujours bien fait.
C'est là où on est dans Lovecraft aussi. Vous parlez de Providence, la ville justement de Lovecraft.
Oui, voilà, il y a la ville de Lovecraft qui est une des dernières amantes, une des dernières femmes que Poe essayait d'épouser. Vivait à Providence, et donc nous sommes allés à l'Athénéum, qui est la bibliothèque publique, et au sous-sol il y a un fauteuil dans lequel Poe allait lire le journal, et à sa suite ensuite Lovecraft allait lire le journal dans le fauteuil de Poe. Donc c'est vraiment une relique.
Il y a de la mélancolie chez Poe.
Il y a une petite forme de mélancolie, teintée peut-être d'une pointe d'amertume. Mais il y a chez l'homme quelque chose de profondément mélancolique, hein, quand même, qui transparaît, je pense, davantage dans sa poésie.
Et qui vous le rend attachant?
Oui, oui. Moi, je trouve que c'est un personnage excessivement attachant. Je vous dis, je reviens à cette biographie de George Walter, ça nous montre un personnage excessivement attachant qui a quand même, qui est un génie littéraire assez indéniable, qui a travaillé toute sa vie comme un damné, qui serait sans doute surpris aujourd'hui de savoir quelle est sa stature littéraire, et alors que lui n'a rien gagné pratiquement avec eux. Il a passé son temps à travailler, bon, il a eu une mort tragique, enfin bon.
Merci beaucoup Thierry Gilibeuf. Je rappelle que vous venez donc de faire paraître le premier tome des Nouvelles complètes de Pau dans cette nouvelle traduction que vous avez assurée avec Christian Garcin, c'est aux éditions Phébus, et on attend donc maintenant avec impatience les tomes à venir.